avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'accord est qualifié d'historique par l'entourage de Donald Trump. Un accord de paix conclu au mois de juin à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Et 6 mois plus tard, c'est donc au tour du président Félix Tshisekedi et de son homologue Paul Kagame de signer ce document. Les deux chefs d'État, aux côtés du président américain, vont entériner ce texte censé mettre fin à 3 décennies de crise et d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ses grandes lignes, l'accord prévoit le départ des forces rwandaises du territoire congolais et la neutralisation par la RDC du groupe armé FDLR, considéré par le Rwanda comme une menace pour sa sécurité. Autre aspect important, le texte s'accompagne d'un volet économique, la paix par l'économie, en fixant d'ailleurs un certain nombre de secteurs de coopération entre Kinshasa et Kigali. Reste à savoir, et c'est toute la question et tout le débat que nous allons lancer ensemble durant les 20 prochaines minutes, quel sera l'impact de cet accord sur le terrain ? La paix est-elle vraiment à portée de main ? D'autant qu'à quelques heures de la signature du document, les combats se poursuivent, les tensions sont encore vives. Êtes-vous optimiste ou sceptique? 33 9 693 693 70 et vos commentaires très très longs, je le constate ce matin sur nos réseaux sociaux, je vois que vous avez envie de réagir et longuement sur cette question importante évidemment pour vous toutes et tous qui êtes en République démocratique du Congo. Bonjour Georges.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de Radio France
Internationale. À Kinshasa, vous êtes dubitatif ce matin, vous ne croyez pas du tout en cet accord?
Je ne crois pas du tout à cet accord, Juan. Je rappelle que cet accord a déjà été entériné par les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais depuis juin 2025.
Oui.
Et sur terrain, vous savez que cet accord n'a rien produit du tout. Rien produit du tout. Sauf qu'un bout de papier qu'on a signé et qui s'est passé. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, Tshisekedi accepte d'aller signer cet accord qu'il sait lui-même qu'il a toujours dit qu'il n'y croyait même pas lui-même à cet accord-là, parce que cet accord-là ne stipule pas que le Congo est agressé par le Rwanda.
Mais l'accord dit qu'il faut que les troupes rwandaises se retirent de la RDC.
Bien sûr, Juan.
Donc, si les troupes rwandaises,
vous ne citez pas.
Excusez-moi, si les troupes rwandaises sont présentes en RDC et qu'on leur demande de se retirer, en substance, ça veut dire que le Rwanda agresse la RDC, puisque ses troupes sont présentes sur le terrain.
Négatif, Juan. Négatif, sinon vous avez une très mauvaise lecture de cette affaire. La seule résolution, c'est 27-72, qui stipulait que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique, doit être enterré aujourd'hui par cet accord de chiffon que M. Tshisekedi va signer. Parce que le Rwanda dit ceci, exactement ceci, qu'il va récupérer ses troupes si, seulement si, aujourd'hui dans cet accord-là, tout le monde le sait que la République démocratique du Congo a accepté qu'il y a des laisses de l'air ici. Il est en train de les armer.
Oui.
Si, seulement si la République démocratique arrête ses FDLR, les renvoie au Rwanda, c'est là où le Rwanda va quitter la République démocratique du Congo.
Et donc, attendez, excusez-moi Georges, et donc, quel est le problème? Que Kigali exige la neutralisation des FDLR, et je le disais en préambule, ce groupe armé est considéré par le Rwanda comme une menace pour sa propre sécurité.
Exactement. Cet accord-là, cet accord qui va interner M. Tshisekedi, donne des arguments de plus à Kigali de dire à la face du monde qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo. Même dans l'accord, Juan, ceux qui ont lu cet accord-là, ils vont lire ce mot-là, de mesures défensives. Le Rwanda ne parle pas de l'agression, ni de mesures défensives. Ouais. Alors que cet accord ici lui donne absolument raison d'être en République démocratique du Congo, parce que je vois
donc,
mal aujourd'hui.
Donc,
comment tu sais ce qu'il va faire?
Georges, excusez-moi, on essaie de dialoguer, j'ai l'impression que vous avez envie de partir sur un monologue, mais je comprends votre engouement, je l'entends. On est à quelques heures d'un document, de la signature, d'un moment crucial qui est censé permettre la paix paix après plus de 30 ans de guerre dans l'est de votre pays. Donc vous avez vraiment l'impression, le document tel qu'il a été présenté, tel que nous le connaissons, privilégie davantage le Rwanda de Paul Kagame. Je voudrais que d'autres auditeurs prennent la parole. Bonjour Caleb.
Bonjour Juan Gomez, comment allez-vous ?
Écoutez bien, et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures de la signature de cet accord de paix ? Est-ce que, comme Georges, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez des doutes ?
En effet, moi je suis partagé entre espoir et inquiétude. Espoir, parce que, comme vous le disiez en préambule, cet accord pourrait permettre de mettre fin à 3 décennies de guerre ou d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et le président rwandais Paul Kagame, qui a une certaine influence dans la région, qui est d'ailleurs considéré par beaucoup d'observateurs comme soutien, bon, pas beaucoup d'observateurs parce qu'il y a des rapports de l'ONU qui considèrent que le Rwanda soutient le M23. Alors oui. Le président Kagame peut peser de son influence, peut être déterminé à encourager ou à faciliter le retrait de l'AFC M23 de Goma. Il peut aussi retirer toutes les troupes rwandaises du sol congolais.
Il peut, bien évidemment Caleb, il peut, c'est d'ailleurs ce que lui demande le document qui sera signé tout à l'heure par les deux chefs de l'État. Mais a-t-il intérêt à retirer les troupes rwandaises et à ne plus soutenir le M23 ?
Oui, c'est ce qui justifie mon inquiétude, parce que, comme le disait le précédent auditeur, l'accord a été signé fin juin, mais sur le terrain, il n'y a pas eu de changement, les affrontements se poursuivent. Mais alors, est-ce que Paul Kagame a intérêt à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo ? Eh bien oui, je pense que la paix pour les peuples rwandais et les peuples congolais, pour tous les peuples dans la région des Grands Lacs, est plus importante que tous les autres aspects ou tous les autres intérêts économiques. Parce que la paix, elle peut faciliter notamment la libre circulation des personnes et des biens, elle peut faciliter l'arrivée des investisseurs. Parce que si la paix persiste dans l'est de la RDC, dans l'est de la RDC, c'est toute la région des Grands Lacs qui en pâtit. Et je ne vois pas un investisseur sérieux prendre le risque d'aller investir ou d'aller mettre ses capitaux dans une région en guerre.
J'entends bien. En tout cas, pour Kigali, il n'est pas question de retirer ses troupes tant que la RDC n'aura pas neutralisé les FDLR. Bonjour Darly. Allô, allô.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de
l'EFI. Oui, bonjour, merci d'être avec nous Darly. Vous souhaitiez prendre la parole. Vous ne croyez pas en cet accord de paix ?
Je ne crois pas en cet accord de paix, je pense que c'est un marché des dupes, c'est un accord qui sert les intérêts du Rwanda, donc les intérêts congolais. Parce que quand vous prenez le temps de lire cet accord, vous vous rendez compte que les équipes de Paul Kagame a manœuvré subtilement pour se rassurer que la rhétorique rwandaise des 20 dernières années, notamment sur le sujet des FDLR.
Oui. Là, excusez-moi, Darly, le réseau téléphonique n'est pas très bon. On vous rappelle tout de suite, c'est promis, vous pourrez nous expliquer pourquoi c'est un marché de dupes. Bonjour Sylvain.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Merci de nous écouter. Vous êtes à Goma, Sylvain. Vous disiez au Standard avoir un peu d'espoir ce matin concernant cet accord de paix.
Je suis précisément à Beni pour le moment, mais la population qui se trouve dans la partie est du pays, nous avons un espoir qui est minimal par rapport à cet accord, du fait que nous sommes les plus touchés par cette décennie de violence et de conflits. Et cet espoir est né du fait que nous trouvons que c'est la grande puissance qui est les États-Unis qui va chapeauter cet accord. Et peut-être à cause de cela, nous pouvons avoir un espoir qui est un peu minimal. Mais ce qui nous fait douter, c'est que quand il y a des accords pareils, nous, sur le terrain, nous trouvons qu'il y a toujours des escalades de conflits, en dépit de tous les accords qui parlent de cesser le feu sur le terrain, on ne voit aucunement une action préalable qui se lit sur le terrain.
D'accord, c'est-à-dire que oui, sur le papier, mais sur le terrain, vous avez des doutes que la paix soit appliquée. Et c'est vrai que j'ai votre message WhatsApp sous les yeux, vous êtes à Béni et au Nord Kivu, et vous êtes confronté. Vous, vous êtes probablement, faites partie de la population congolaise la plus marquée, et celle qui a le plus souffert par ces trois décennies de guerre. Merci infiniment, Sylvain, de votre fidélité, de votre confiance. Charles, le bonjour.
Bonjour, Gomez. Bonjour à tous les lutteurs.
Vous êtes à Lubumbashi, Charles. Quel sera l'impact de l'accord signé tout à l'heure à Washington sur le terrain?
Bon, pour moi, comme disaient mes prédécesseurs, hein, je ne vois pas d'impact parce que, écoutez, ce n'est pas le premier accord. Déjà que le 27 juin dernier, l'accord de paix a été signé. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain. Les violences ont continué, disons, la guerre a continué. Donc, il n'y a pas eu d'avancée significative. L'accord de Doha a été signé dans le même contexte. Rien n'a été fait sur le terrain. Déjà que le M23 s'est dit ne pas être concerné ni par Washington ni par Doha.
À Doha, d'une certaine façon, il est concerné, puisqu'il négocie avec les autorités de Kinshasa. Donc, il est concerné par les négociations qu'il mène à Doha, au Qatar. Mais concernant l'accord de paix, que faut-il pour qu'il soit respecté? On voit bien que, de part et d'autre, on se renvoie la balle. Kinshasa dit « l'accord ne sera respecté que si les troupes rwandaises se retirent ». Et Kigali dit, nous respecterons l'accord que si la RDC neutralise les FDLR.
Mais justement, je disais tout à l'heure, vous comprenez que nous sommes dans une dynamique des rapports de force. Et donc, des parts et d'autres, il n'y a pas vraiment de volonté manifeste, surtout du côté de Kigali. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le Rwanda va pouvoir lâcher aujourd'hui. Vous avez suivi sa dernière sortie médiatique. Il disait que le Goma, c'est son affaire. Donc, il faudra d'abord satisfaire à ces conditions pour qu'ils puissent lâcher prise. Donc vous comprenez que nous sommes dans une sorte de bras de fer. Alors, pour moi, cet accord n'est qu'un balai diplomatique. Donc, je ne vois pas vraiment que l'espoir dans cet accord.
Donc, finalement,
ce n'est pas la première fois que le Congo signe les accords de paix.
Bien sûr, il y en a eu des accords de paix et des cessez-le-feu, il y en a eu des dizaines ces 30 dernières années, et on voit qu'ils n'ont jamais été respectés, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui en 2025. Charles, finalement, qui est le grand gagnant de cet accord? Est-ce que c'est Donald Trump au final, puisqu'il va pouvoir négocier, signer des contrats avec la RDC d'un côté, des contrats également de l'autre côté avec le Rwanda, des contrats miniers?
Exactement. C'est pour ça que je dis que Trump, lui, est en train de tirer profit de cet accord, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'aspect économique. Vous avez vu, il a invité tous les chefs d'État de la région, notamment le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. C'est un accord d'intégration régionale. Il veut se rassurer, il veut vraiment assurer ses intérêts. Et c'est ça que le Congo n'a pas compris. C'est pour ça que moi je dis, l'approche du Congo est erronée. Il aurait dû d'abord commencer par à mettre les Congolais dans un élan patriotique, ça veut dire organiser un dialogue national où on essaie de résoudre le problème, les causes profondes qui minent ces pays. Et en ce moment-là,
donc il aurait fallu un dialogue inter-congolais avant d'en arriver à la signature de cet accord de paix cet après-midi à Washington. Je vous interromps, vous êtes tous très bavards ce matin, mais je comprends, c'est normal. Le sujet mérite qu'on s'y attarde, évidemment. Josué dans un instant, mais d'abord Gédéon. Il attend, il est à Lubumbashi. Bonjour Gédéon.
Bonjour cher Juan, bonjour à tous.
Alors Gédéon, vous êtes plutôt optimiste, sceptique à quelques heures de la signature de cet accord de paix?
Effectivement, j'ai envie de croire.
Vous y croyez?
Parce que ça fait un bon moment, le président américain, ce qu'il dit, on a l'impression qu'il les réalise. Et tout le monde sait aujourd'hui que le Rwanda est un pays qui est parrainé par les États-Unis. Et ce que les Américains disent, les Rwandais doivent le faire. Donc je pense que cet accord, c'est vrai, ça présente quand même des faiblesses, mais comme ça vient de Trump, j'ai envie de croire que cette fois-ci, ça sera la bonne.
Donc vous pensez que si Trump veut faire du business, si vous me permettez l'expression, dans la sous-région, il va devoir tordre le bras, et il a les moyens de tordre le bras au président Kagame.
Tout à fait, tout à fait. Et Kagame ne fait que l'écouter.
Ouais. En même temps, je voulais le commentaire de Vital qui nous dit « Nous voyons chaque jour les militaires rwandais lourdement armés traverser la frontière de Ruzizi pour renforcer le M23. C'était le cas pas plus tard qu'hier et avant-hier alors que les deux présidents sont à Washington pour signer cet accord. »
Donc, c'est la roublardise du président rwandais qui m'étonne un peu.
La roublardise.
Oui, le président rwandais, oui. Mmh. Il n'est pas sincère. Mais lorsque le président Trump lui intime l'ordre, il n'a qu'à faire avec. Donc j'ai vraiment envie de croire que cette fois-ci, en tout cas, ça sera la bonne parce que le président américain s'y impose.
Bon, on va terminer avec vous sur cette note optimiste. Merci Gédéon, bonne journée à Lubumbashi. Josué, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous disiez au Standard en juin, vous vous attendiez à des résultats concrets. On est en décembre. Et dans quel état d'esprit êtes-vous, Josué ?
Je crois que je peux dire que je suis un peu partagé, mais au vu de ce qui se passe sur le terrain, ça laisse un peu... on reste sceptique, quoi. Mais de l'autre côté, moi, je vais vous poser deux questions. Alors, cet accord, on va le signer, parce que comme je l'ai dit l'autre fois, il faudrait qu'on aille sur tous les plans, tout ce qui a comme mécanisme de paix et tout. OK, c'est bon, on se jette dessus, mais il ne faudrait pas qu'on soit dupe. Alors, moi, je voudrais poser deux questions.
Oui.
Cet accord sera signé, mais ça entre en vigueur quand ? Tous les engagements qui sont compris dedans, ça entre en vigueur quand ?
Bah, normalement, et quel mécanisme ? Normalement, non, je n'ai pas la réponse, mais normalement, il est censé entrer en vigueur dans la foulée de la signature, à la fin de la cérémonie. Mais bon, vous avez entendu comme moi le président Tshisekedi qui a dit l'accord, OK, il sera signé, mais l'accord ne sera mis en œuvre qu'une fois que le Rwanda aura totalement retiré ses forces du territoire de la RDC.
Ah, ok, bon, voilà, c'est là qu'intervient la deuxième question. Et quel mécanisme est prévu pour contraindre l'un et l'autre de respecter ce qu'ils vont signer ?
Ah, alors moi, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, c'est une excellente question, car il n'y a aucun mécanisme contraignant. J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de contrainte. Et qui dit pas de contrainte...
Ah, mais il faudrait qu'il y ait une contrainte, parce que là... On va retourner, ça sera un cercle vicieux. Et c'est pas la première fois que le Rwanda et la RDC se retrouvent à Washington et tous sous l'égide des autres présidents et tout ça. Il y a eu George Bush avec Joseph Kabila et tout ça. C'est pas la première fois, vous voyez.
Ouais.
Alors il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour contraindre l'un et l'autre de respecter. Parce que le Rwanda pose la question des FDL qui doivent être désarmés par la RDC et tout ça. Ok, mais c'est un préalable.
Ouais. Donc il faut des contraintes. Et qui dit contrainte dit des sanctions. Donc sanctionner la partie qui ne respectera pas l'accord.
Exactement. Ouais. Oui, parce qu'on veut une paix durable dans cette partie du pays. Les populations souffrent là-bas. Alors il faudrait contraindre les gens.
J'ai du mal à vous couper les uns les autres ce matin, mais encore une fois, je le dis, je le répète, c'est normal, vous avez énormément de choses à nous dire et vous avez beaucoup de choses sur le cœur. Et il faut en parler ce matin, on est à quelques heures donc de la signature de cet accord présenté comme historique par la Maison Blanche. David, à Bukavu, bonjour. Ah Jean.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Oui, on vous écoute.
Oui, évidemment, je suis en train de suivre avec attention ces débats, mais je suis en train de me dire que pourquoi chaque fois qu'il y a des accords qui sont annoncés pour être signés, ce sont des affrontements qui s'ouvrent sur tous les fronts. Par exemple, dans la province du Sud Kivu, ou à Katogota, Kamanyola, Kaziba, à Mouda, quand même à Sper, il y a des enfants qui sont en train de perdre leur vie. Pourtant, on pense très bien que lorsque les États-Unis se sont impliqués, on devrait quand même voir cette volonté de toutes les parties prenante à trouver la paix à l'est. Ouais. De la
mais là, à l'heure actuelle, vous avez l'impression que ni le président rwandais, ni son homologue congolais ne veulent la paix ? C'est le sentiment que vous avez ?
Pas du tout, mais plutôt il y a deux aspects à ces côtés-là. Parce que du côté de la RDC, le président congolais veut la paix. C'est pour cette raison-là qu'il est en train même de voir comment est-ce qu'on peut trouver la paix à l'est de la RDC pour qu'il puisse aussi bien diriger. Peut-être les problèmes se posent du côté du Rwanda parce que quand il y a ce genre de situation, c'est la situation économique qui est en train de fuir du côté du Rwanda. Je vais parler entre autres des carrés miniers qui sont exploités par les forces qui sont là parce que vous savez très bien, l'Est de la RDC regorge d'énormes potentialités minières, des ressources naturelles, de l'or,
Et donc le Rwanda a tout intérêt à maintenir ses troupes sur place pour continuer à exploiter illégalement donc ces minerais dont vous parliez, notamment le coltan, ces terres rares d'ailleurs que Donald Trump cherche à acquérir. Merci à tous de votre fidélité. On revient demain à 8h10, temps universel.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Caroline Paré, bonjour.
Bonjour Juan.
Nous sommes le premier jeudi du mois.
On va parler sexualité pendant 50 minutes en direct avec les questions des auditrices, des auditeurs. 33 7 61 18 46 41, c'est le numéro WhatsApp. Le sujet du jour, les douleurs pendant les rapports sexuels, en identifier l'origine physique ou non, trouver le soulagement, retrouver confiance et surtout ne pas passer ces douleurs sous silence.
On vous retrouve dans 10 minutes.